Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Pascal qui a surgi, qui frappe, c'est goal. C'est de qui était là.
Nick,
Belgium, great again.
Miguel Merino.
Charles qui se bat bien. Allez, Van Aken, c'est goal.
Gol d'Espagne. Gol de la France. Gol del Chile.
Et que fait la Maison Blanche pendant ce temps-là?
Pierre Dorian.
L'After Live intégrale Coupe du Monde avec une très belle affiche à suivre. Coup d'envoi 21h Espagne-Belgique. Et notre casting de rêve ce soir, c'est Lionel Charbonnier et Eric Dimeco. Salut les gars.
Salut messieurs.
Ça va Eric?
Salut à tous, c'est impeccable.
Ah, salut Eric.
Une belle affiche. A priori déséquilibré, mais attention aux Belges, on va présenter cette rencontre évidemment. Un match qui a lieu au SoFi Stadium de Los Angeles où l'on retrouve le vénard Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Pierre, salut messieurs, salut à tous.
Il y a tout pour se régaler ce soir. Fais-nous le petit point météo tout de suite, c'est très important.
Ouais. Alors que l'hymne américain retentit dans le SoFi Stadium, le stade le plus cher du monde, messieurs, écran géant de 100 mètres de large.
Hein.
Ah bah oui, il peut, à 5 milliards de construction, il est magnifique avec un écran géant de 100 mètres de large, c'est vrai que c'est quelque chose. Les conditions, elles sont bonnes, alors il fait assez chaud dans le stade, pour tout dire, nous en tribune de presse, on est vraiment tout en haut, il est fermé, hein. Ce stade avec
un fermé, pas climatisé.
Non, il n'est pas climatisé, mais il fait pas très chaud à Los Angeles. Hein, il fait 23-24 degrés actuellement. Donc non, les conditions seront idéales. Ce sera pas bien moins étouffant que sur la côte Est que ce qu'ont pu connaître les Bleus.
Je sais qu'Eric il aime pas le foot indoor.
Non, c'est pas, c'est bon, on n'est pas. Alors c'est bon pour les basketteurs, pour les handballeurs, pour les volleyeurs, pour les sports de préau. Nous, on est un sport de grande terre, nous, de grands espaces.
Alors, le stade est tellement gigantesque, Eric, que je te rassure, on sent l'air, il n'y a pas de problème. Ils ont de la distance au-dessus de leur tête, les joueurs. Ça va pas les gêner.
On va présenter ce quart de finale Espagne-Belgique. On va parler des Bleus également. Alors d'abord, en se demandant quel est l'adversaire idéal pour l'équipe de France, évidemment. Et puis, spécifiquement sur l'Espagne, est-ce l'heure de Yamal? Pour l'instant, on n'a pas vu un grand Yamal dans cette compétition. Et puis, côté belge, le miracle est en cours. Hein. Rudy Garcia a réussi son coup contre les États-Unis au tour précédent. Et on va voir ce qu'il nous a concocté ce soir. On va d'ailleurs démarrer par les compos de ce match, Xavier. Il y a quelques petits changements de part et d'autre.
Exactement, avec quand même une surprise dans la compo de l'Espagne, c'est Pedri qui est sur le banc, le milieu de terrain du Barça. Il avait été titulaire dans tous les matchs de ce mondial. La presse espagnole l'avait un peu senti venir parce qu'il avait posé pas mal de questions à Luis de la Fuente sur le mondial de Pedri en avant-match hier. On aura Unai Simon dans les buts, l'homme qui ne prend pas de but, hein, record d'invincibilité dans ce mondial, aucun but encaissé par la Roja depuis le début du mondial. Pedro Porro qui sera titulaire sur la droite et non pas Marcos Llorente. Porro qui fait une bonne Coupe du Monde, le joueur de Tottenham. Koubarsi Laporte pour la défense centrale, grand classique. Et Marc Cucurella, le nouveau joueur du Real, évidemment le taulier sur le côté gauche de la défense espagnole. Milieu de terrain donc avec Rodri, le capitaine et ballon d'or 2024, avec donc Fabian Ruiz, le Parisien qui retrouve une place de titulaire. Il avait été titulaire uniquement lors de la première journée face au Cap-Vert. Dani Olmo sera là en soutien de l'attaquant de pointe, qui sera évidemment Mikel Oyarzabal, le Basque, qui a marqué énormément avec sa sélection sur ces derniers matchs. Ce sera Lamine Yamal, bien sûr, sur l'aile droite. On espère le retrouver à son niveau. Et Alex Baena, qui lui aussi fait un bon mondial, titulaire sur l'aile gauche, en attendant
Nico Williams
se retrouve. Ouais. Voilà, Nico Williams est sur le banc, prêt à jouer, a priori, mais il devra entrer en jeu selon le scénario
donc,
de la rencontre.
Quand même la présence de Ruiz à la place de Pedri, exactement.
Pedri, ouais. C'est tout par rapport au dernier match.
Et alors, côté belge?
Alors côté belge, il y a le retour de Kevin De Bruyne, titulaire. Il n'avait pas été utilisé du tout par Rudy Garcia lors du 8e. Il était sur le banc, il n'était pas entré en jeu. C'était l'un des coups de poker de Rudy Garcia. Il retrouve une place de titulaire. On aura Courtois dans les buts. Une défense avec Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mekele et Maxime De Kuyper. C'est ce qu'on attendait. Yuri Tillmans, le capitaine, avec Nicolas Raskin au milieu de terrain. Kevin De Bruyne donc pour le troisième milieu un peu plus haut. On aura Leandro Trossard sur une aile. Jérémy Doku titulaire. Il retrouve une place de titulaire. C'était Luke Bacchio qui était titulaire en 8e. Et Charles de Ketteler, auteur d'un doublé face aux États-Unis, qui sera à la pointe de l'attaque. Et Romeo Lukaku, donc sur le banc.
Rafraîchis-moi juste la mémoire. De Bruyne qui n'a pas joué contre les États-Unis, du coup, prend la
c'est
place.
Onana.
Onana qui est blessé.
De Onana.
Il s'est blessé, donc c'est
exactement.
C'est un milieu un peu plus défensif contre les États-Unis, puisque Tillmans jouait un peu plus haut. Donc là, Tillmans retrouve une position devant la défense avec Raskin et De Bruyne, donc en meneur de jeu.
On va analyser ses compos d'abord sur l'équipe de France. Eric, est-ce qu'il y a un adversaire
France, Espagne.
Non, pour l'équipe de France, justement, tu préfères.
Je croyais que tu as enchaîné des coups. Écoute, sur la hiérarchie mondiale et sur ce qu'on attendait de cette Coupe du Monde, puisqu'on donnait l'Espagne favorite et hyper favorite avec nous, il vaut mieux éviter l'Espagne. En plus, la Belgique, ça donnerait une demi-finale sympathique, voire rigolote,
comme
voire
tendue.
Voilà. Et qui semble un peu en dessous de l'Espagne. Voilà, c'est pas le 4-1 contre les États-Unis qui va me faire changer d'avis pour le moment sur cette équipe.
Et toi, Lionel?
Comme Eric, la Belgique, tu regardes un petit peu quand même quand tu vois la production de cette équipe espagnole jusque là, tu te dis waouh, quand même ils sont en grande maîtrise. Les Belges n'ont pas montré une grande maîtrise, même si attention, ils sont de mieux en mieux. En plus, ils sortent d'un miracle là derrière, ils ont pris une grande bouffée
d'oxygène. Ils étaient pas loin d'exploser contre le Sénégal et là ils se retrouvent en quart.
Et ils explosent par contre les États-Unis là, ils se retrouvent en quart. Attention, mais je pense que moi cette équipe, moi tu vois, j'aimerais la Belgique. Qui a été fatigué
par l'Espagne
okay. Qui aura joué des prolongations avec 24 heures en moins. Attention aux Belges quand même.
Les Français, eux, ont eu droit à une journée de repos aujourd'hui après leur quart de finale totalement maîtrisé face au Maroc. Arthur Perrault en direct de Boston. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Donc on se régénère, on se change les idées et on profite.
Oui, c'est le but. Oui, c'est vraiment l'objectif de cette journée de repos. Décision prise hier soir, hein, très tard, après la rencontre, le staff de l'équipe de France qui a décidé d'accorder un jour off à l'ensemble de l'effectif. Il n'y a qu'une seule obligation, c'est être de retour à 20h heure locale, ici à l'hôtel en centre-ville pour le traditionnel dîner avec l'ensemble du groupe. Mais en attendant, voilà les joueurs qui peuvent profiter, ce que je peux déjà vous dire, et vous retrouverez toutes les informations sur rmcsport.fr cette nuit, c'est que par exemple la famille Lucas Digne est en train de visiter l'université d'Harvard, que d'autres familles sont en train de se balader dans le très grand parc public ici en centre-ville de Boston. Aujourd'hui il fait beau et il fait un peu moins chaud comparé à hier. Donc voilà, chacun vague un petit peu à ses occupations pour récupérer, profiter, s'oxygéner l'esprit.
Avant
dernière ligne droite.
Tu attends de nous dire qu'il y a certains joueurs de l'équipe de France qui vont intégrer Harvard, c'est ça?
Pourquoi ça me fait rire?
Voilà, Pierrot, tu t'es fait griller. Moi, je parlais sérieusement et toi, tu te moques. Voilà, Pierrot.
Pourquoi pas, hein, tu sais qu'il y a l'ex-joueur de Boston qui part, mais Jaylen Brown, qui est une tronche absolue dans NBA, et qui était au stade hier, très bien, et qui est capable de faire ce genre d'études. Hein, donc
Même des footeux, ne croient pas. Hein,
évidemment.
On évite.
Évidemment, vous avez joué tous les deux avec Basile Boli, vous êtes bien placé pour en parler, Lionel et Eric.
Exactement.
Non, mais moi non plus, hein, j'aurais pas fait Harvard.
Juste sur les blessés, est-ce qu'on a des petites infos? Oui. Tout va bien pour Kylian, je suppose.
Oui, c'est plutôt rassurant et d'ailleurs lui-même était déjà rassurant hier soir, je le cite, j'ai pris un coup à la cheville mais ça va, voilà, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il pourra tenir sa place en demi-finale contre la Belgique ou l'Espagne, mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que sa cheville sera suivie de très près par le staff qui tient vraiment à ce qu'il soit en pleine possession de ses moyens pour ce match important. Et concernant Aurélien Tchouaméni, on le rappelle qu'il avait participé à la séance de veille de match en intégralité, qu'il s'est remis d'une petite gêne musculaire, que même si Manu Koné a réalisé une grosse performance hier soir face au Maroc, la hiérarchie ne semble pas remise en cause et donc Aurélien Tchouaméni part encore ou plutôt toujours avec une longueur d'avance sur Manu Koné, et que si donc il est à 100%, c'est lui qui devrait les buter.
Mais parce que Manu Koné est très très bon hier, c'est même peut-être hormis les buteurs, hormis les coups d'éclat, le joueur qui a le plus crevé l'écran. Eric, pour toi, il n'y a pas de raison de changer, de modifier la hiérarchie?
Alors, moi, j'aurais fait confiance aux garçons qui ont éliminé les Marocains.
Ouais.
Si dans l'esprit de Didier, Tchouaméni, qui est quand même, je crois qu'il est vice-capitaine, me semble-t-il, Pierrot. Ouais, j'ai l'impression que quand Kylian sort, c'est lui qui récupère le brassard. Donc ça veut dire que pour Didier, il est pas concurrent, ce Tchouaméni. Mm. Voilà. Mais normalement, Koné devrait rester sur le terrain pour le prochain match.
Lionel, t'es d'accord avec ça? Sur le milieu de terrain, la perte de Koné change rien.
Moi, je pense qu'il va garder Tchouaméni. Ça fonctionnait aussi très très bien. Même si je suis fan inconditionnel.
Après, il peut aussi faire Tchouaméni Koné, c'est une autre possibilité.
Non.
Bah, Rabiot survole le truc.
Il changera pas. Ça, c'est sûr. Mais il va revenir à ce qu'il avait fait, à ses fondamentaux. Il va remettre Tchouaméni, même si Koné. Moi, je suis attention. Ce sera
pas hier. Hein.
Mais ouais. Alors Koné, tu peux le mettre 8 et puis il peut aller 6-8 et puis pour. Pourquoi pas aussi progresser. Tchouaméni est plus défensif.
Rabiot et Koné en plus ont une bonne frappe de balle, donc c'est quand même des atouts.
Tchouaméni va vouloir une assise défensive, un peu plus un vrai 6 avec Tchouaméni.
C'est surtout que si tu joues contre l'Espagne, voilà, tu as besoin d'un milieu défensif, défenseur, et en plus, il est au Real quand même, ne l'oublions pas, donc il connaît les mecs par cœur. Ça peut jouer aussi dans l'esprit, mais je crois que même pour Didier, c'est même pas ça le. Pour lui, il est devant, devant, quoi.
C'est les mecs qui cochent avant tout.
Mais cette histoire de bon, nous on aime bien faire les débats sur les compos, mais on rendra hommage au coach comme ça, Roland. Tu joues plus les matchs à 11 maintenant avec ces 5 changements. Regarde encore une fois Barcola quand il rentre, ou l'inverse quand Doué rentre. Les mecs font la différence, c'est-à-dire tu peux te partager le match. Et un Koné qui rentre dans un match où tu es devant au score va t'amener beaucoup de solidité et voire peut-être de la percussion à la récupération. Et tu peux jouer sur ça.
Et toujours si on se projette sur un éventuel France-Espagne, parce qu'il faut toujours le faire. Hein, on a vu dans cette Coupe du Monde qu'il n'y a pas un match facile. La défense aussi française, on en parle peu, mais elle est énorme, hein, cette charnière.
Ouais, mais elle est énorme, parce qu'elle est bien protégée aussi.
Je mettrai les quatre, Pierrot, là, dans les deux axios derrière et les deux milieux terrain qui verrouillent tout le secteur là.
Mais ils sont impressionnants comme Américains.
Oui. À la fête, tu sais, alors généralement quand on s'amuse à faire les compos, ou en tout cas quand les mecs font les compos de la Coupe du Monde, le meilleur gardien, le meilleur arrière-gauche et tout, généralement c'est ceux qui vont au bout, donc ça peut encore changer. Mais là aujourd'hui, si on s'amuse à l'instant T à faire la compo de la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de Français et il y aura surtout nos deux défenseurs centraux, me semble-t-il. Même si, attention, les Espagnols qui n'ont pas pris de but, le petit Cubarsí là qui est très jeune et qu'on voit gros comme une maison depuis un moment et qui de temps en temps a le défaut de sa jeunesse, est en train de lui aussi de devenir quelque chose là.
Et donc, Lionel, t'insistes aussi sur le rôle des deux latéraux qui sont pourtant censés entre guillemets être nos points faibles, si on peut dire, deux joueurs moins dominants.
À la base, c'était nos points faibles. Là, quand je vois Luca Digne, même Hernandez, quand j'ai vu ses prestations, ils sont mis au niveau. Pour moi, j'ai aucun souci. Alors, côté droit, j'avais aussi un petit souci. Mais là, honnêtement, ce que je vois surtout, c'est que, ouais, on parle de la défense des Français, mais c'est aussi un gros travail de tous les deux. Ça commence par les attaquants. Je peux te dire, tu peux demander à Eric.
Les couloirs travaillent beaucoup. Hein.
Ouais. Quand tu vois un Doué, parce que tout le monde se disait pourquoi on va mettre Doué sur le côté gauche à la place de Barcola, mais quand tu connais la PMA de Doué, que en face t'as Hakimi qui est capable d'attaquer mais qui peut avoir quand même un petit peu de mal à défendre, et que t'as Doué qui est capable de faire des allers-retours comme ça, je peux te dire ça leur fait mal un petit peu.
Tu connais la PMA de Doué toi beaucoup?
Ben bien sûr, tu connais pas toi.
Je sais pas, j'ai pas vu moi. C'était marqué où?
T'es passé à travers, mais c'est le mec qui a la.
Mais c'est où comme moi ça du coup?
Il le voit à l'œil nu, Charbot, quoi. Il est habitué avec les chevaux.
Après, j'ai été entraîneur, mais j'ai aussi quelques entrées au PSG.
Ah, très bien. Il a ses infos.
Juste un mot
sur une individualité, et après, on va passer à l'Espagne. Upamecano, c'est le meilleur défenseur central de la Coupe du Monde, Eric?
Ah oui. Bah, moi, disons que si tu me demandes, je dois faire mon équipe. Je dois, si tu me dis tu es président, tu dois faire une équipe et tu dois prendre dans la Coupe du Monde, le premier défenseur central que je prends, c'est lui,
hein. Ouais, devant Koubarsi.
Il va vite,
par exemple,
il est dur, non mais il va
dans
vite,
il aime le duel,
il aime ça. Tu parlais de Basile tout à l'heure, Charbot l'avait connu, il me fait passer à Basile,
mais avec des pieds en plus,
peut-être,
hein.
Mais avec des pieds mais les pieds qu'on a redressés, quoi. Non mais Basile était pas maladroit non plus, hein.
Lionel, il n'en rajoute pas sur Basile, hein, t'as vu.
Non, mais moi, j'étais content. T'as besoin de défenseurs comme ça de temps en temps.
Bien sûr.
Je te dis pas le contraire. Non, mais c'est un grand stopper, Basile.
C'est un régal. Alors,
mais juste, sa qualité première n'était pas la relance. C'est tout.
Ah, il s'est amélioré après quand il a. voilà. Mais...
Ah ouais. Au début, moi, je l'ai connu en.
Il s'est amélioré après. C'est comme quand tu dis d'un mec.
Mais là, c'était quelque chose.
C'est comme quand tu dis d'un mec, il est gentil pour pas dire qu'il est bête.
Non, mais Pierrot, je vais te dire un truc. Quand on retournait jouer à Auxerre, les spectateurs, ils étaient contents parce qu'ils savaient ils allaient participer au match avec Basile. Ils faisaient une touche en touche. Allez, une touche en touche.
Allez, c'est Espagne-Belgique, coup d'envoi 21h. Dans un instant, est-ce l'heure de Lamine Yamal? On sera avec Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne qui a suivi la Roja pendant toute cette Coupe du Monde. Vous êtes sur RMC 20h17. C'est l'After Live intégral Coupe du Monde. Et bien sûr, vous appelez le 32-16 sur RMC pour participer à cet avant-match.
RMC After Live intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
Il est 20h21 sur RMC, c'est l'After Live intégrale Coupe du Monde avec Xavier Grimaud à Los Angeles pour Espagne-Belgique, 21h avec Eric Dimeco et Lionel Charbonnier. On parle de cette rencontre, on va décortiquer la compo de l'Espagne et débattre de Lamine Yamal dans un instant. Je vous rappelle qu'on vous attend aussi au 32-16, supporters belges, supporters espagnols. On veut vous avoir à l'antenne et d'ailleurs j'en profite pour saluer un dingo d'RMC, un jeune homme qui nous écoute tous les jours, voilà, et qui nous écoute aujourd'hui et dont j'ai pas le nom, mais dont j'ai mangé le nom.
Alors, on dirait Vincent qui fait un hommage ou
Voilà, c'est le fils de Nadège, mais Nadège, t'as oublié de me mettre son nom, son prénom.
Ah ben oui.
On le donnera à la fin de notre talk sur l'Espagne. Je suis vraiment.
J'en déduis que tu connais mieux Nadège.
Non, j'ai jamais rencontré le gamin. Je n'ai jamais rencontré le gamin, mais je sais Nadège, qu'il nous écoute tous les jours et qu'il est complètement dingue d'RMC.
Charbot, voilà. Tu l'as grillé. Oh. Tu l'as grillé.
Non, c'est Émile David.
Voilà.
Émile, on te salue. Voilà, je me suis raccroché aux branches. Alors, on accueille Edgar Grollo pour parler de l'Espagne. Salut Edgar.
Salut Pierrot, salut tout le monde. Salut Edgar.
Edgar, il y a cette compo quand même avec un choix fort hein, de La Fuente. Oui. Pedri sur le banc, Ruiz titulaire.
Ouais, exactement. Ça peut surprendre. Après, quand on voit la Coupe du Monde de Pedri jusqu'à présent et son dernier match face au Portugal, c'est assez décevant pour l'instant. Et particulièrement ce dernier match, je l'ai trouvé peu inspiré, peu connecté parfois avec ses coéquipiers. Il y avait un problème, il y avait un souci. Et je pense que Fabien Ruiz, c'est un choix aussi pour peut-être amener un peu plus de verticalité à cette équipe. En tout cas, c'est un choix fort de la place de la part de La Fuente, parce que forcément quand tu regardes cette équipe initialement, t'as Rodri, t'as Pedri et après t'as un troisième joueur que tu vas imaginer là, ou alors tu vas être en 4-2-3-1 comme ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs avec Olmo un petit peu plus haut. Mais là finalement ils choisissent d'enlever Pedri alors que ça semblait évidemment au départ de la compétition un titulaire indiscutable. Et je pense vraiment que c'est le résultat direct des prestations qui ont été un petit peu en deçà de la part de Pedri, là où Rodri par exemple monte vraiment en puissance et est monstrueux depuis le début de la compète et de plus en plus à chaque match.
Ouais, et Ruiz qui était un titulaire de La Fuente va peut-être redevenir. Ce profil il est incroyable, hein. C'est un mec qui n'est vraiment pas pour le coup, comme tu disais Eric tout à l'heure, pour Upamecano, le premier que tu mets sur la feuille. Mais un peu comme un Claude Puel à votre époque, le mec finit toujours par être titulaire au PSG. Il a connu exactement le même parcours.
Mais... Mais il y a plein de joueurs comme ça. Charbot a été entraîneur, il va nous en parler. Mais des garçons qui sont trop importants pour le collectif de par leur qualité, mais aussi de par l'influence qu'ils ont. Et souvent, c'est par rapport à je ne sais plus comment on dit ça, là, le truc invisible, c'est-à-dire que. Alors, tu as les mecs, tu vois, les mecs qui courent de partout, qui font des gestes techniques que tu vois, donc ceux-là, tu les vois. Et puis, tu as les mecs comme ça qui. tout ce qu'il faut est juste et surtout qu'ils sont capables d'aller compenser parce qu'à côté de lui ça monte. Donc c'est un remplacement sur 10 mètres que toi tu vois pas, mais que qui est super important pour le collectif et qui est toujours tourné vers le collectif. Et donc c'est pas étonnant quand tu regardes un petit peu le parce que l'Espagne ça ronronne pour le moment. Franchement c'est pas, ouais. Il m'impressionne pas. On va dire qu'il ronronne parce que techniquement c'est très fort, mais et à un moment donné si tu veux donner du pep, c'est peut-être qu'il faut faire des changements. Et ces mecs-là reviennent toujours dans le jeu. Dans le
game, un joueur aussi qui peut-être balle au pied peut casser plus de lignes, peut porter un petit peu plus le ballon que Pedri qui a un style différent.
Ouais, après sortir Pedri, c'est quand même un vrai choix parce que
non, mais Pedri fait rien jusqu'à maintenant.
Le problème, c'est qu'il fait pas une grosse coupe du monde.
T'as pas une grosse coupe du monde avec Pedri, t'as pas Yamal non plus. Alors si tu veux passer les tours, là tu veux te qualifier pour une demi-finale, tu sais pas ce qu'il y a, t'as aucune certitude avec Yamal. T'es certain en tout cas que Pedri en ce moment il passe à travers. Et ce que disait Eric pour en revenir à Fabián Ruiz, c'est exactement ça. Moi, c'est un mec avec lequel, pour lequel j'étais complètement fan dès le départ au PSG. J'ai eu mais je me suis fait défoncer parce que soi-disant il avançait pas.
Il a eu du mal à se faire adopter par les supporters.
Bien évidemment. Mais quand tu regardes tout ce que vient de dire Eric, quand tu regardes son jeu invisible, le mec qui se met dans un intervalle de passe, qui empêche, il rend Fabián Ruiz, c'est simple, il rend les adversaires invisibles. Et c'est un mec qui bonifie ses coéquipiers.
Et il fait beaucoup d'appels aussi dans la surface. Et pour le jeu de l'Espagne, de position,
il est capable face à un bloc bas, il est capable de frapper de loin et de marquer. Là, il va falloir, je pense que tu risques d'avoir un bloc bas avec les Belges ce soir.
Donc, si vous nous rejoignez, l'info compo côté Espagne, c'est Ruiz qui démarre à la place de Pedri. Et puis, justement, cette Espagne qui ronronne, tu nous disais, Eric, a besoin d'un détonateur qui n'est pas pour l'instant Lamine Yamal. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est son heure à Lamine Yamal? Toutes les autres grandes stars de cette Coupe du Monde sont au rendez-vous. Alors, on peut mettre de côté Cristiano Ronaldo qui a peut-être passé la limite d'âge. Sinon, tous les autres sont là. Jusqu'ici, sa Coupe du Monde ressemble à quoi? Il y a un but au compteur, mais tout de même une petite montée en puissance, cette gare.
Oui, une montée en puissance, mais tu sens encore, et ça s'est vu une nouvelle fois lors du dernier match, tu sens que il est pas à l'état physique qui lui permet d'être le véritable Lamine Yamal. Les Espagnols, ils sont au courant. On rappelle qu'il était blessé à la cuisse, qu'il était incertain même pour le début du mondial, qu'il avait commencé remplaçant lors de la première journée face au Cap-Vert. Et tu sens que, notamment sur les premiers mètres, vous savez, cette capacité qu'il a à accélérer, quand il est à l'arrêt et à déposer son défenseur, là, il n'en est pas vraiment capable, ou alors, en tout cas, et ça s'est particulièrement vu face au Portugal, où forcément, avec Nuno Mendes, il avait un sacré client en face. Quand il a un vrai bon défenseur face à lui, c'est plus compliqué pour vraiment l'éliminer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'amène pas du déséquilibre. Mais quand tu as une équipe qui déjà est amputée de Nico Williams sur le côté gauche, qui rentre en cours de match, et qui donc est un petit peu plus déséquilibrée vers le côté de Lamine Yamal, et tu n'as pas de l'autre côté ton pendant, et donc les défenseurs en face peuvent vraiment être focalisé sur Lamine Yamal, bah forcément tu mets ça bout à bout avec le fait qu'il n'est pas à 100% physiquement. C'est compliqué, Pierrot, d'être aussi décisif, et le problème c'est que l'Espagne compte énormément sur lui, et quand tu as déjà un Pedri qui est un petit peu en deçà dans la créativité, et un Lamine Yamal qui n'est pas à son niveau, et en plus de ça il te manque quelqu'un à gauche, bah forcément ça se ressent offensivement dans cette équipe.
Et si on se souvient de l'Euro 2024, ils avaient deux bombes atomiques sur les côtés, Nico Williams et Lamine Yamal étaient à un niveau stratosphérique. C'est pas impossible non plus à cet âge-là de retrouver des sensations rapidement. Il peut aussi finir sa compétition en tromble, non ?
Mais
Eric.
Ben, le problème, c'est que quand tu arrives blessé ou pas prêt, ou que tu comptes sur la compétition pour te préparer, et ça arrive souvent, ces mecs-là jouent dans des grands clubs, ils font beaucoup de matchs dans la saison, donc des fois ils arrivent, ils sont soit un peu blessés, soit fatigués, et donc ils montent en puissance tout au long de la compétition. Sauf que là maintenant il va falloir qu'ils soient décisifs, parce que d'après moi les problèmes de l'Espagne et les problèmes à aller dans la surface et à mettre le feu, ça doit venir de lui, voilà. Et je pense que c'est le bon soir, parce qu'en face, d'après moi, il aura un client moins dur que
il va être face à deux keepers.
Voilà, et il va avoir, parce que Nuno Mendes, on loue ses qualités offensives, parce que ce mec-là pourrait jouer ailier gauche ou attaquant couloir gauche dans n'importe quelle équipe de Ligue 1. Et on a presque oublié que c'était un très bon défenseur. Il a mis en Ligue des Champions sur les deux dernières saisons, il a mis bon nombre de grands joueurs de grands clubs dans sa poche. Et on l'a encore vu contre Yamal.
Et sa sortie, parce que d'ailleurs, en huitième de finale, fait très mal au Portugal. Hein.
Exactement. Et je vais te dire, quand tu es si tu es pas, parce que Yamal est capable, oui, ben Pierrot, est capable de d'éliminer n'importe qui. Sauf que s'il est un peu moins bien et s'il tombe sur un très bon défenseur, eh ben il va moins faire de la différence. C'est ce qui s'est passé contre le Portugal. Mais là, c'est le moment, quoi. L'adversité, d'après moi, va être un peu moins forte et lui aura une semaine de plus dans les cannes. Et c'est maintenant. Ces joueurs-là, ils sont là pour faire gagner ces matchs-là. Hein.
Rappelle qu'il a été blessé juste avant la Coupe du Monde, mais qu'il est revenu quand même à temps. C'est-à-dire qu'il est pas, alors il est arrivé pas à 100% de ses moyens physiques, évidemment.
Il n'a pas eu de prépa, par exemple.
Mais pas blessé, on est d'accord.
Il n'a pas fait de match de prépa.
Ouais, non, mais par contre, on le voit, Edgar le disait, il a parfaitement raison. On le voit dans ses appels. Il n'est pas transcendant comme il pourrait être. Tu vois, il n'est pas percutant. On dirait qu'il joue un peu avec le frein à main. Alors peut-être qu'il faut qu'il prenne confiance en sa cuisse et que peut-être qu'il sent encore des trucs, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, l'Espagne ne peut pas s'en sortir s'ils n'ont pas un grand joueur. Et Yamal
exactement.
En fait partie.
En tout cas, on a vu que
l'Argentine là, la exactement. France là, la Norvège à Haaland.
Et on peut encore avoir un dernier carré avec les quatre favoris du début de Coupe du Monde, c'est-à-dire France, Espagne, Argentine, Angleterre, avec donc c'est cette donnée là où les trois autres ont un joueur hors norme qui fait la différence. Voilà. Hein. Alors en revanche, le garçon n'a rien perdu ni de sa confiance ni de sa grande bouche, puisque on va se rappeler. Se remémorer ce qu'il disait sur l'équipe de France après son seul but de la compétition contre l'Arabie Saoudite.
Non, je pense qu'il n'y a aucune équipe dont on puisse dire c'est impossible qu'on la batte. Par exemple, la France n'est pas meilleure que nous. Elle ne nous a pas battus depuis l'Euro. Elle ne peut pas être meilleure que nous. Ce qu'il montre n'a pas d'importance. La phase de poule ne veut rien dire. Regarde l'Allemagne. La Coupe du Monde commence maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de favori. Évidemment, la France arrive en très bonne forme. Elle a de bons joueurs. Mais je ne pense pas qu'elle soit au-dessus des autres. Aucune, pour moi, n'est au-dessus des autres.
La France n'est pas meilleure que l'Espagne. Alors ça, c'était pendant la phase de poule, hein, on le rappelle. Hein. C'est important. Rappelons aussi quand même que l'Espagne n'a pas encaissé le moindre but, pas un seul but, depuis le début de la compétition. Oui. Ça, c'est quand même énorme. C'est quand même une force incroyable. Vite fait, vous trouvez pas quand même que l'équipe de France est meilleure que l'Espagne sur le papier, là ?
Pour moi, la France est meilleure sur le papier pour une chose. J'ai l'impression que cette équipe de France, comme je les voyais hier... Moi, je me suis dit, ils m'ont fait douter. Mais la France ne doute pas. Mbappé ne doute pas. Olysée ne doute pas. Dembélé, personne ne doute dans cette équipe. Là, aujourd'hui, une chose dont je suis sûr, c'est que les Espagnols, ils sont sûrs de leur force, mais ils ont vu que, et ils se disent, ah bah ouais, on a la possession, tout va bien se passer. Et puis on marquera le coup d'après. Et puis le coup d'après, tu marques pas. Et puis tu le remets au coup d'après et tu marques toujours pas et tu finis à 0-0 contre le Cap-Vert, tu marques à la 91e contre le Portugal, tu manques de passe à la trappe et tout ça. Et je pense qu'ils ont moins de certitude, ces Espagnols, que nos Français.
Eric,
en tout cas, ça n'engage que avec moi. La balle, mais c'est faut peut-être séparer aussi l'animation avec le ballon et le travail sans ballon. Je pense que défensivement, c'est de très loin la meilleure équipe de cette compétition.
Ouais, mais s'ils
pour
prennent
l'instant.
Peu de buts, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de ballon, Edgar.
S'ils prennent pas de buts, c'est parce qu'ils ont le record de la compétition en possession. Ouais, mais
ça fait partie de. C'est une façon de défendre aussi. Et historiquement, on l'a vu avec l'Espagne. Hein, c'est une façon de défendre aussi d'avoir le ballon.
Et je pense aussi que même quand tu prends juste les défenseurs, au-delà de ça, ils sont très performants depuis le début. Laporte, Koubarsi, même ceux sur les côtés, Kukuria et Porro qui s'est imposé.
Ils ont rarement
sont très performants. Unai Simon aussi.
Hystérique
et
sur.
Et je pense que pour gagner les matchs à élimination directe, c'est très important.
Sur la comparaison France-Espagne depuis le début de la compétition.
Ah non, mais. Pour moi, pour le moment, on est devant. Et on est revenu devant. Parce que, rappelez-vous, l'Espagne, ces dernières années, c'est l'équipe qui nous embêtait le plus parce qu'elle nous prenait le ballon et on avait du mal à le récupérer. Et on n'avait pas cette faculté dans les transitions qu'on a aujourd'hui.
Le contre-pressing, on n'avait pas.
D'après moi. Moi, je pense qu'on est... Alors beaucoup plus fort, oui, je vais le dire. Je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'il y a 4 ans et que sont un peu moins forts pour le moment. Quand je dis pour le moment, c'est parce que je ce soir, et peut-être qu'après le match de ce soir, on va redéfinir ou redonner notre avis sur le niveau de l'Espagne. Mais sur ce qu'on a vu pour le moment, je pense qu'on est repassé devant, alors que on avait quand même beaucoup de mal contre cette équipe-là, et ils étaient devant nous, d'après moi.
Tiens, juste le petit clin d'œil, c'est que là, en ce moment, les joueurs sont à l'échauffement, et Lamine Yamal a enchaîné un petit exercice de frappe sans opposition et sans mur.
Allez, bonsoir à tous.
Il met tout en lucarne. Hein. C'est je veux dire, là, la qualité technique des mecs, tu la vois que quand il n'y a pas d'opposition, pas de pression, ouais, et que le physique est à 100%,
c'est plus facile.
Oui, mais c'est, ouais, non, mais c'est même impressionnant. Charbot, ouais, mais même Charbot, ouais, sans opposition, il mettait tout en lucarne. Qu'est-ce que tu racontes, Pierrot, quand même, hein.
Bah, écoute,
la différence, écoute, c'est que Yamal, il le fait quand il y a de l'opposition, ça, parce que sans opposition.
Moi, hein, je me régale même de ce genre de choses-là.
Parce que j'étais pas dans les buts, hein.
Peut-être. Ouais. Merci Edgar. On va passer au Belge. Ouais, dis-moi.
J'ai une toute petite stat pour terminer. Attention quand même à l'Espagne qui, dans toute son histoire, n'a gagné qu'un seul quart de finale. Ouais. Et donc, ça représente vraiment quelque chose, voilà, quelque chose d'important pour eux. C'est pas une banalité. C'est pas comme les Bleus, l'Italie, l'Allemagne ou le Brésil.
Et même la
c'est
Belgique, on a gagné plus.
Moins grande histoire en quart de finale et en Coupe du Monde que les autres, donc attention quand même.
Les Belges, on en parle tout de suite avec le coup de poker de Rudy Garcia qui a fonctionné contre les États-Unis. Ils remettent De Bruyne et Doku. On va analyser tout ça avec Sacha Tavolieri dans un instant. Vous appelez 32-16 bien sûr sur RMC.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
20h39 sur RMC, l'After Live intégrale Coupe du Monde avec une très très belle affiche Espagne-Belgique, quart de finale à 21h coup d'envoi, donc à Los Angeles au Sophie Stadium. Match qu'on va vivre avec Lionel Charbonnier et Xavier Grimaud au commentaire. Et tout de suite on parle de l'Espagne, on est avec Eric Dimeco également. L'Espagne, non, on vient d'en parler de l'Espagne, on parle de la Belgique et on accueille Sacha Tavolieri. Salut Sacha.
Bonsoir à tous.
Alors,
salut Sacha, comment tu vas?
Ça va, très bien, content de vous entendre, content d'être avec vous.
On rappelle que donc Jérémy Doku reprend sa place côté droit à la place de Luke Bacchio et que De Bruyne revient lui aussi dans le 11 à la place d'Onana qui est blessé. De Bruyne qui n'a pas joué une minute contre les États-Unis au tour précédent. Alors on aimerait comprendre tout ça, Sacha, parce que c'est vrai que ce qui a fonctionné contre les États-Unis aurait pu être reconduit, hein.
Oui, absolument. Alors, le choix de Rudy Garcia, pour moi, il est assez clair. Depuis le début, il fonde véritablement sa crédibilité dans cet effectif et au sein de ce vestiaire, dans le fait de brouiller ses cartes, de n'avoir pas tout simplement à gagner en se faisant des copains dans ce groupe-là. Et donc, en mettant tout simplement sa personnalité en avant, en disant, ben voilà, quoi qu'il arrive, moi, à la fin de la saison, ou plutôt à la fin de la Coupe du Monde, mon contrat, il est terminé. Je vais faire le meilleur des choix possibles pour pouvoir permettre à cette équipe d'aller vers l'avant. Et en l'occurrence, pour lui, il a estimé aujourd'hui que Jérémy Doku devait rentrer à nouveau dans ce 11 de base. Kevin De Bruyne aussi. Bon, voilà, moi, j'aurais peut-être espéré avoir un peu de taille dans ce milieu de terrain. Je pense que ça aurait fait du bien. On a déjà perdu Amadou Onana. On aurait pu avoir Hans Van Aken pour apporter cet impact. Et cette intelligence de jeu aussi. On l'avait vu en Ligue des Champions cette saison. Il est capable, dans le mouvement sans ballon, d'être vraiment très important. Mais bon, voilà, il a décidé d'avoir Kevin De Bruyne. Ceci dit, Kevin De Bruyne, dans un très bon jour. Évidemment, on va pas faire la fouille de bouche. C'est très intéressant aussi. Donc, on attend beaucoup de lui. Ce qui est certain, c'est que ce sont deux joueurs, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, qui n'ont pas donné de garantie à l'heure actuelle dans cette Coupe du Monde. Donc on aura vraiment beaucoup plus de pression sur nos yeux quand on les observera.
Ouais, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette équipe, elle a failli exploser contre le Sénégal. Je ne sais pas si vous vous souvenez du regard de Doku à Rudy Garcia quand il sort. Tu t'es dit, bon, bah là tout va partir
en sucette. Quand tu vois comment ça part en live à la mi-temps, les joueurs qui s'engueulent et tout. Bon,
mais alors là, pour le coup, le match de Doku aussi va être intéressant. Parce que.
Il l'a piqué, je pense.
Bah, forcément.
Il l'a piqué. Je pense,
c'est quand même son meilleur joueur.
On va voir, hein. Et notamment dans les transitions, quand t'as un mec comme Doku qui va à 2000, tu sais que tu vas pas avoir la possession dans les grands espaces dans le dos, et notamment dans le dos des arrières espagnols qui eux, ils pensent plus à attaquer qu'à défendre. Doku peut faire très mal.
Et tu es étonné, Eric, qu'ils remettent Doku, De Bruyne. Bon, De Bruyne, il y a blessure d'Onana, mais on aurait pu imaginer qu'ils remettent les mêmes, hein.
Oui, De Bruyne en a compris, blessure de Nana, donc naturellement il revient. Et puis c'est quand même un joueur, il est plus à son prime, mais c'est un joueur qui a une telle expérience et un tel pied et une telle habitude de jouer ces matchs-là. Au moment du choix, tu te dis, je vais le mettre sur le terrain parce que le mec il va me faire un truc, quoi. Voilà, sur un coup de périté, sur une passe chirurgicale, il a encore ça. Concernant Doku, c'est bizarre parce que Luke Bakio m'avait particulièrement plu sur ses rentrées avant d'être titulaire. C'est-à-dire qu'il est allé se la gagner, sa place. Il est allé se la gagner en n'étant pas titulaire et en faisant de bonnes rentrées chaque fois. Et notamment dans ce match où, tu le dis, Pierrot, où le match bascule, il y est pour beaucoup à un moment donné. Donc, je ne sais pas s'il est blessé ou non, ou si c'est un vrai choix, mais c'est un choix couillu parce que je trouve que ce gamin avait gagné sa place. Après, Doku, quand il est dans un bon soir, pour un latéral, il est impossible à attraper. Il est insupportable tellement que il est dur à attraper. Mais il peut être dans un mauvais soir aussi, attention, voilà. Donc c'est son défaut.
Et puis il y en a un qui semble avoir gagné sa place. Alors là, pour le coup, celui-là, nous, on le découvre parce qu'il joue au Glasgow Rangers. C'est Nicolas Raskin dans ce milieu de terrain belge, Sacha.
Ouais, bien sûr, Nicolas Raskin qui est tout simplement l'homme le plus méritant sous Rudy Garcia depuis qu'il a pris la tête de la sélection. Il faut savoir que c'est lui qui est à la base vraiment de ce que je peux appeler une masterclass en qualification et dans le match 3-0 gagné par la Belgique à Genk face à l'Ukraine qui avait permis à la Belgique de rester en Ligue A en Nations League. C'est démarré de là cette histoire et lui il a pris véritablement la tangente, il a vraiment épousé ce rôle et c'est devenu le chouchou de Rudy Garcia. Vraiment, c'est devenu son chouchou, je le vois véritablement dans les discussions, etc. C'est un joueur qui est relativement. Il y a de l'affect en fait chez Rudy Garcia pour Nicolas Raskin et lui a besoin de ça. Je pense qu'il a communiqué de la meilleure des manières et surtout, je pense qu'il a compris qu'il avait besoin de ce type de joueur-là. Très bon relanceur, le joueur des Glasgow Rangers qui d'ailleurs ne sera plus un joueur de Glasgow Rangers.
Il va où
cet été? Il va être transféré. Bon, il y a des intérêts, de gros intérêts, notamment de l'Atalanta en Italie et pourquoi pas notamment en Angleterre. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que lui, ce qu'il apporte, c'est de la stabilité dans ce cœur du jeu. Nous n'avions plus depuis Axel Witsel en 2018 cette espèce de numéro 6 qui est un espèce de joueur boussole qui va être le meneur de jeu reculé, qui va te permettre de souffler un peu quand t'es mis sous pression. On avait des joueurs d'impact, des joueurs de percussion, des joueurs qui en fait te permettaient quand t'étais très offensif d'aller vers l'avant. Mais là, Raskin, il te permet de calmer
Witsel,
un petit peu ton jeu et surtout de trouver un équilibre.
Witsel qui a joué quelques minutes d'ailleurs contre les États-Unis, je crois. Juste un mot, Eric. Dernier point qu'on n'a pas trop abordé, c'est quand même le personnage Rudy Garcia qui moi me fascine. C'est un coach qui a pas tout réussi dans sa carrière, mais qui a une belle carrière et qui ne perd jamais cette assurance. C'est-à-dire que même quand les Belges étaient vraiment mauvais en début de compète, il avait toujours ce ton sûr de lui et il a quand même réussi un coup dans cette Coupe du Monde là. Je veux dire, il se retrouve en quart de finale contre l'Espagne avec un vrai espoir de taper l'un des favoris, en vrai.
Oui. Il a réussi. On a beaucoup parlé de sa com après le match contre le Sénégal. Il nous a fait du Rudy. Moi, malgré tout, il a souvent été critiqué. Il a été critiqué quand il est passé à l'OM. Par rapport à ses résultats et enfin, pas tous ses résultats parce qu'il a eu de bons résultats, mais surtout par rapport à sa com. Et je pense que ce côté, son assurance et cette com a joué contre lui tout au long de sa carrière. Et il y a un autre truc qui a joué contre lui, c'est que on a toujours mis en avant ce côté où il sait se vendre et il arrive à passer devant. Bon, hein, on connaît l'histoire à Lyon avec Lolo Blanc. C'était à Lyon avec Lolo Blanc. Et je crois qu'avec la Belgique, ça a été un peu pareil. Chose, je me demande si avec la Roma, pareil. Donc, ça a un peu joué contre lui. Mais au final,
il fait souvent des. Enfin, comment dire, ça se finit souvent par quelque chose partout où il passe.
On a fait une finale de Ligue Europa.
Soit dans le vestiaire ou
aux
dirigeants qu'il a, à chaque fois il leur retourne le cerveau.
Allez, attention. On parie sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Jesse Diliegro. Salut Jesse.
Salut Pierre, je te donne les codes de ce Espagne-Belgique. Les Espagnols sont favoris, côté à 1,60, le nul lui à 3,90 et la Belgique côté à 5,50. Pour ce match, Pierre, notre partenaire vous propose une grosse cote boostée. Lamine Yamal ou Mikel Oyarzabal buteur, hors prolongation et tir au but, passe de 1,44 à 2. Je rappelle que cette cote est valable jusqu'au coup d'envoi. Moi, pour ce match, Pierre, j'ai envie de vous proposer l'Espagne avec les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 2,95. Lionel, tu veux proposer quelque chose?
0-0 ou 1 partout.
Eh bien écoute, 0-0, on tombe à 10 et 1 partout, on tombe à 6,25.
Lionel, il voit une prolongue dans ce match. Toi, Eric,
victoire de l'Espagne sans encaisser de but.
Et victoire de l'Espagne sans encaisser de but, on tombe à 1,26. C'est une petite cote, Eric.
Oh là là.
1,26, mais
quel,
non.
Quel peu cher.
Rappelle-nous, la victoire d'Espagne, elle est à combien?
Elle est à 1,60.
Ah bah, c'est pas possible.
Mais comment c'est possible,
but,
ça
c'est pas, sans encaisser de but, c'est forcément plus qu'un 60.
Ah, voilà. Ben oui. Attends,
il y a un critère de plus. Voilà, c'est peut-être deux,
on doit être à 2.
C'est peut-être 2,16 plutôt, non?
Oui, exactement.
2,16,
merci,
voilà.
Jesse. Merci.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Sacha, merci d'être venu nous éclairer sur la Belgique.
Sacha, avec un très très grand plaisir. Petite information de dernière minute, Youri Tielemans est sorti blessé, il ne jouera pas titulaire. Ah. Il vient de se blesser à l'échauffement. Oh. Donc le capitaine cède sa place et est remplacé par Hans Van Aken.
Ah, ça c'est peut-être un coup dur quand même.